Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch, ici, plusieurs fois par semaine. On analyse, on décortique, on critique les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël pour le Raw du 12 octobre 2020, le deuxième et dernier épisode de la draft annuelle. On prend tout le monde, on secoue, on mélange. Et avec moi pour faire ça, le spécialiste du secouage, celui qui sait remuer les biberons comme personne, l'ami Yerem. Comment ça va Yerem? Est-ce que tu as bien secoué ces derniers jours?
Ah moi, s'il y a bien quelqu'un qui secoue tout le temps, c'est moi. J'adore secouer, je suis un secoueur né.
Et ben voilà, l'orangina bleue, on l'appelle.
Pourquoi est-il aussi méchant?
Pourquoi est-il aussi gentil pour Yerem? Parce qu'il est gentil, Yerem, vous le savez.
Ouais, et c'est pas parce que je vous menace chaque semaine que vous dites que je suis gentil.
Ah non, pas du tout, ça c'est pas parce qu'on en est persuadé. L'ami Yerem, il fut un temps où tu étais le taulier du show bleu avec Giscard, mais tout se mélange, tout...
Ouais.
Est-ce que finalement ça compte encore tout ça, ces histoires de show bleu, show rouge, d'exclusivité? Ben, en tout cas, on va voir ce soir, après un premier épisode à SmackDown où on nous a annoncé beaucoup de choses, où il s'est passé plein d'événements, et on vous invite à aller écouter la review en question du dernier SmackDown. Eh bien, on se retrouve à Raw pour clôturer l'aventure. Est-ce que tu es prêt, Yerem?
Oh oui, je suis prêt, bébé.
Et c'est parti. Alors, comme depuis un petit moment, puisque nous étions ensemble en tag team sur l'Euro de la semaine dernière, eh ben, on ouvre de la même façon avec ton copain, l'ami Randy Orton, qui ce coup-ci fait l'effort de venir sur le ring pour nous parler. Il nous raconte que 2020, c'est un peu l'année du Covid, mais c'est aussi l'année de Drew McIntyre. Voilà, donc il lance une petite théorie du complot. Est-ce que tout ça serait pas lié? Non, ce qu'il nous explique surtout, c'est que voilà, il y a une semaine, il a réussi à pin Drew McIntyre, et c'était la première fois depuis presque un an que personne n'avait battu Drew McIntyre. Donc il lui dit, Drew, là, si c'est pas un signe de ce qui va t'arriver, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, alors c'est la nouvelle gimmick de leur feud, hein, c'est il lui parle juste à lui, hein, donc c'est sympa pour nous, mais voilà, il dit, Drew, I am talking to you right now. Et Drew fait souvent ça aussi, il dit Randy, je te parle à toi, là, face à face. Donc, bon, rien d'original, hein. Il fait un peu plus court que la semaine dernière, il lui dit, en gros, je vais te battre, je vais prendre le titre WWE, je vais t'envoyer en enfer dans le Hell in a Cell. Et ça, c'est grâce aux trois lettres R, K, et il n'a pas le temps de dire la dernière, qu'il est interrompu par la musique de Drew McIntyre. Drew arrive, il déchire son t-shirt, il est beau comme tout, il est musclé, et lui, il nous dit, voilà, à Clash of Champions, Randy, je t'ai envoyé des gros kicks dans la tronche, c'était pour tous ceux que t'avais humilié. Mais là, à Hell in a Cell, tout ce que je vais te faire sera pour moi. Ça sera pour mon petit plaisir, pour mon petit kiff personnel. Je me fais un petit cadeau, j'ai bien mérité. Et puis, ben, j'avais promis qu'à chaque fois qu'on serait dans la même salle, tu prendrais cher dans ta gueule. Et ben, on est dans la même salle, tu vas prendre cher dans ta gueule. Et il arrive et il va taper Randy Orton. Donc, ils se mettent à se brawler dans tous les sens, un peu dans le ring et à l'extérieur. Et donc, Drew envoie Randy un peu surfer sur la table des annonceurs. Et Randy Orton, lui, finit par fuir. Donc voilà, il s'écarte et puis on va pouvoir enfin commencer un peu le show sur des bases un peu plus sérieuses. Mais est-ce que tu as aimé cette tension du début, sachant que voilà, Orton a sous-entendu qu'il pourrait peut-être partir à SmackDown dès ce soir, ce qui n'est pas le cas de Drew, hein. Drew a déjà été drafté à Raw. Est-ce qu'il y a encore à tes yeux une incertitude qui flotte? Et puis est-ce que ça t'a fait plaisir que Drew raccourcisse de 10 minutes son speech initial?
Eh, plus c'est court, plus c'est bon. C'est pas ce qu'on dit?
Bah, chez Randy Orton, pas toujours, ouais. Mais...
ah, chez Randy Orton, ouais, là, non, il fallait la faire courte, ils l'ont fait courte. Écoute, une fois de plus, on va pas se plaindre, le champion et son first contender, son rival du moment qui ouvre le show, c'est ce qu'on souhaite. Donc là, ils l'ont vraiment fait courte. C'est vrai qu'ils n'ont plus grand-chose à raconter. Là, on a utilisé le gimmick de la draft pour donner quelques lignes, quelques punchlines à Randy Orton qui, on va dire, est très bon, hein, dans l'exercice, je trouve, des sous-entendus et un petit peu... toujours à faire des allégories, des choses comme ça. Il est plutôt bon dans l'exercice, Randy Orton, Drew McIntyre aussi d'ailleurs. Ils sont assez ils sont assez intellectuels finalement, nos gros costauds là, de 2m10. Voilà. Hein. Ils aiment bien faire des petites glisser des petits sous-entendus et tout ça j'ai trouvé que ça avait une bonne façon de rentrer dans le show, même si clairement c'était pas le sujet et que il y avait peu de mystère sur ce qui allait se passer concernant les deux hommes, quoi qu'ils auraient pu nous la... Voilà, on verra après les résultats de la draft, mais Bon, ça n'a pas apporté grand-chose, mais ça nous, voilà, au moins, on a commencé avec les champions et c'était bien.
Ils nous en ont pas trop fait, ça je suis
Ouais.
d'accord avec toi. C'est vrai que quand Randy a commencé à regarder la caméra et à nous dire Drew, je vais te parler les yeux dans
T'as
les
eu
yeux,
peur?
je m'attendais à un truc, et puis qu'est-ce qu'il dit? Bah je vais te battre, je vais te prendre ton titre. Bon ouais, effectivement on sent qu'il n'y a plus beaucoup de contenu à raconter, qu'on a un peu vidé la substance du truc, enfin qu'on a bien déjà raconté beaucoup de choses, mais bon la feud se poursuit, on l'a déjà dit la semaine dernière, la stipulation à l'Inocel va être parfaite pour clore le débat et. Et voilà, bon, on nous rappelle qu'à ça, Drew toujours monstrueux physiquement et
Ah
ouais, il
ouais,
a
que il enlève son t-shirt là, 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 là.
ah,
Là,
il
ça
aurait
secouait, ça secouait pas mal.
là ça secouait, ouais. Là ça secouait. Mais on les reverra peut-être, hein. C'est peut-être pas fini de ces deux hommes parce qu'ils aiment bien quand même se battre l'un contre l'autre. Ils finiront peut-être amis, hein. Des fois on commence comme ça et on finit les meilleurs amis du monde. En tout cas, Stéphanie McMahon est de retour. Hein. Moi qui envisageais peut-être un changement, qui me disait ça sera peut-être Stéphanie à SmackDown et Shayna Rowe, je ne sais pas. Eh
Ah
ben non.
non, bah il faut bien nous vendre la meilleure CMO, le meilleur responsable marketing au monde, hein, devant toutes les grosses autres sociétés du CAC 40 américain.
Ah ouais, non, Stéphanie, c'est la meilleure au monde. Et donc, elle est là pour nous faire la draft. Donc, le même coup que Friday Night SmackDown. Si vous n'avez pas suivi, voilà, à chaque tour, on va en avoir 6 ce soir. Il y a deux drafts pour SmackDown, trois drafts pour Raw, puisqu'il y a une heure de plus d'un côté que de l'autre. Donc la première pick de Monday Night Raw n'est autre que The Fiend Bray Wyatt. Donc déjà, gros nom annoncé, hein, un transfert. Du côté de SmackDown, alors moi c'est ma petite déception de ce draft, c'est que on a tout remis à zéro, donc on nous cite aussi des gens qui restent dans leur brand. Moi je trouve ça un peu
Ah,
pourri.
t'aimes pas ça, hein?
Bah j'aime pas, alors voilà, Bayley donc reste à SmackDown, bon ok d'accord super. À Raw, bah, Randy Orton reste, voilà ça on est sûr maintenant, on a cloué le game assez vite. Par contre les Street Profits, les champions tag team de Raw s'en vont à SmackDown, on en avait parlé sur le Discord, est-ce qu'ils allaient suivre Bianca Belair ou pas? Eh bien oui, ils suivent leur femme, enfin la femme de l'un des deux évidemment.
Ah bon, je ne savais pas tout sur la relation qui unissait les membres de
Ah.
Street Profits et Bianca Belair.
Peut-être qu'un jour on en saura plus. Et dernière pick pour Raw, assez étonnante, Charlotte Flair. Charlotte Flair, dont on n'a pas entendu parler depuis un bon moment. Je ne saurais pas dire la
Bah,
dernière
c'était quand
fois.
sa dernière opération chirurgicale?
Ça fait date un
Faudrait
peu.
demander, faudrait contacter l'hôpital, le
Ouais.
docteur en charge de toutes les opérations, de l'enhancement des superstars de la WWE. Il devrait pouvoir nous fournir une date précise.
Mais alors, on se souvient qu'elle avait quand même gagné à WrestleMania le titre NXT. Elle avait fait un petit mois après là où elle était partout tout le temps. Et puis bah, ensuite, elle a disparu partout. Mais alors, bon, on va faire un petit mot sur ce premier draft, même si après on fera un bilan final. Qu'est-ce que t'en as pensé? Grosse surprise pour Bray Wyatt. Et puis, ouais, Charlotte sort un peu de nulle part, non? Étonnant quand même.
Ouais, c'est vrai que alors Bray Wyatt en first pick, c'est quand même vraiment une
Ça
belle
se tient.
démonstration. Ah ouais, ça
Ouais.
se tient parce que bah ça reste c'est le monstre, hein, le vrai monstre de la WWE à l'heure actuelle, qui quasiment en fait est dans voilà flotte un petit peu au-dessus de tout le roster. Il est un peu dans un univers un peu à part, hein, Bray Wyatt.
Ouais.
C'est d'ailleurs pour ça que côté la ceinture, ça pose toujours problème. Finalement, c'est trop réel en fait. De foutre la ceinture sur Bray Wyatt et aux The Fiend, souvent ça fait flop. Par contre, qu'il soit le first pick là, c'est bien, ça montre qu'il y a un gros programme encore pour lui, ça qui va nous occuper, hein, cette fin d'année toujours un petit peu sans grande saveur. Là, Bray Wyatt qui va aller du côté de l'Écossais, bah ça promet de belles choses pour le monstre. Donc ça, je suis franchement, moi je suis ravi, hein.
Et toi, tu vois déjà le film d'affronter.
Non,
Ah,
pas tout de
pourquoi
suite.
pas? Pas tout de
Non, pas tout de
suite.
suite, pas tout de suite. Puis on verra plus tard qu'il a probablement déjà un petit programme intermédiaire,
Oui.
mais c'est excitant, toi, l'idée de se dire que peut-être les deux hommes, à un moment donné, se croiseront. C'est toujours excitant, même si, voilà, une fois de plus, dès que tu mets Bray Wyatt dans l'histoire de ceinture, toujours un petit peu compliqué.
Ouais.
Bon, alors je passe sur la Freebird Rule là, du couple Street Profits, Bianca Belair que tu as mentionné. Excusez-moi, qui ai-je.
Mais
Là, effectivement, pour moi, il n'y a pas trop de surprises. Effectivement, bah, voilà, on switch les champions par équipe. On verra un peu plus tard comment on résout ce genre de situation à la WWE. Pour Charlotte Flair, ouais, j'étais un petit peu surpris finalement, et on verra plus tard. C'est pas le seul gros nom absent depuis des mois. qui se retrouve assez haut dans le dans les pics. Alors, après, vu le palmarès,
oui, ça se tient.
Ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'elle soit sélectionnée aussi haut. Pour moi, c'était très bien. C'est très bien. Ça permet de la remettre dans le game et j'espère du coup qu'on va la revoir bientôt en fait. Tu vois ?
C'est possible.
La semaine, pourquoi pas la semaine prochaine ou après Hélène Nussel.
Ouais, c'est une possibilité. Moi, moi, je trouve ça un petit peu dommage qu'il nous ait pas gardé 2-3 retours surprises justement sur le coup. Ça aurait pu être voilà, dans 3 semaines ou à Elimination, à Hélène Nussel ou je ne sais pas quand, on aurait pu voir un retour. Parce que là, c'est sûr que du coup, forcément, on s'attend à la revoir et on sait où on va la revoir normalement. Mais bon, effectivement, vu son palmarès, c'est normal qu'elle soit citée assez haut sur la carte.
Il y aurait, à la limite, il aurait fallu ne pas mettre ces noms-là dans le sac de tirage, quoi.
Ouais, c'est un débat, c'est une question, parce que par exemple, sans rien spoiler, c'est pas, je vais le dire maintenant, mais c'est pas très grave. Par exemple, nous n'avons aucune nouvelle de Becky Lynch, qui évidemment va avoir un enfant, qui est peut-être. Mm-hmm. Est-ce qu'elle est hors contrat? Est-ce qu'elle est sous contrat? Je ne sais pas. Je pense qu'elle est toujours sous contrat. Le fait est qu'elle va sûrement pas revenir catcher avant un moment, mais bon, c'est pareil.
C'est vrai. C'est vrai.
Bon, voilà. Ça peut poser question, mais c'était pas non plus très grave dans la gestion du show. Nous enchaînons avec un match, et un match d'importance, en tout cas de stipulation, enfin sans stipulation plutôt, c'est un no disqualification match entre Kevin Owens et Aleister Black, le pirate. Voilà, ça fait des semaines, on l'a déjà dit, qu'ils se poursuivent, qu'ils jouent un peu au jeu du chat et la souris, c'est-à-dire que Aleister Black joue un peu le chat et il essaie d'attraper Kevin Owens qui lui fait tout pour se mettre dans d'autres feuds de plus haut niveau. Mais au bout d'un moment, le Canadien doit bien s'occuper avec Aleister Black. Donc bon, c'est no DQ, donc ça il va fort. On a un premier gros move, c'est Kevin Owens qui court à l'extérieur du ring, qui fait un cannonball sur Aleister Black dans les barricades. À l'extérieur toujours, Aleister Black, lui, prend Kevin Owens qui était debout sur les barricades et lui fait projeter sur la table des commentaires. Donc ça envoie du lourd. On part sur le ring. Aleister Black a sorti une chaise. Il va écraser la tronche de Kevin Owens sur la chaise. Puis il va sortir plein de chaises. Ça, c'est toujours un moment rigolo quand le méchant ou le gentil, d'ailleurs, attrape plein de chaises sous le ring. Il les balance tous sur le ring. Sauf que du coup c'est Kevin Owens qui attrape une chaise et qui va taper Aleister Black avec et qui va même faire un DDT dessus. Ça va être la gimmick de la fin de match, hein, les chaises. Puisque Kevin Owens déplie plusieurs chaises, il les met les unes à la suite des autres là pour essayer de faire mal à Aleister Black. Sauf que c'est Aleister Black qui se met sur le turnbuckle et qui lui saute dessus les genoux en avant, qui écrase Kevin Owens sur les chaises.
Superbe
move, mais ça sera uniquement near fall, ça fera simplement 2. Et on va un peu à l'extérieur du ring, et là, tournant du match, Aleister Black tente un Black Mass, Kevin Owens l'évite, pouf, la jambe de Aleister Black tape le poteau, ça fait très mal. Kevin Owens en profite, il ramène son adversaire dans le ring, stunner, et powerbomb sur une table qui avait été ouverte là, et victoire de Kevin Owens. 1, 2, 3, c'est plutôt net et sans bavure, ça a été, j'ai trouvé, un bel enchaînement. Est-ce que ça clôt la feud à ce moment-là de la soirée? Aucun des deux n'a été drafté, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Toujours est-il que Owens apparaît supérieur à Aleister Black. C'est peut-être ce qu'on regrettait un petit peu, non, pour le fameux pick a fight là, qui se retrouve un peu bas dans la carte désormais. Hein.
C'est-à-dire qu'effectivement, Kevin Owens ayant déjà un programme visiblement avec The Fiend au moment où tous ces événements tragiques d'un match assez magnifique, hein, j'ai trouvé, finalement, qui fait plutôt bien écho au match entre Sheamus et Big E du côté du show bleu. J'ai trouvé qu'on avait vraiment là un bel effet miroir avec vraiment deux mecs qui se mettent bien bien sur la tronche. Tu as superbement décrit le match, beau travail de la part de Raphaël.
Merci.
Et du coup, à ce moment-là, j'ai dit, bon, voilà, Kyo, il a un programme. Celui qui a vraiment besoin d'une victoire, finalement, c'est qui? Ah, c'était peut-être plutôt Aleister Black qui redémarre un nouveau personnage. Il a besoin de démarrer fort. Mais en fait, quand il repense, il dit, ouais, mais Kevin Owens, il va aller affronter The Fiend. S'il va déjà en mode je suis perdant, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Donc finalement, au final, on se retrouve dans une situation où les deux doivent gagner. Là, on a décidé de faire gagner Kevin Owens, qui au final, je pense, est la bonne solution si on continue du moins le programme avec Kevin Owens. Ou si on veut l'envoyer vers un plus gros programme, à l'inverse, Aleister Black, en fait, il redémarre un nouveau personnage, donc c'est pas un problème de perdre en fait contre une grosse star. Ça va créer peut-être même de la rancœur encore plus. Chez un heel, c'est parfait. Et de toute façon, ce qui se passe après pendant la draft, parfois reste à la draft. Et les personnages, vont pouvoir commencer de nouvelles histoires dès la semaine prochaine. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est ce superbe match hyper stiff. Et les mecs auront sûrement ressorti avec pas mal de bleus durant cet épisode du show rouge. Et voilà, ce match-là qu'il faut retenir avant tout, vraiment, ils ont super bien délivré.
Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé la performance, relativement courte, j'ai pas les timings, mais bien vitaminée, bien dynamique et bien violente. C'est vrai que ça fait penser à l'état du dos de Sheamus à SmackDown. Mais la question, effectivement, tu as le mérite de la poser, c'est la draft, ou le draft d'ailleurs, je sais pas si c'est masculin ou féminin. Qu'est-ce que ça donne ensuite, parce que
comme la Game Boy ou le Covid, on sait jamais.
Voilà, mais Kevin Owens a perdu hein, contre le Finn, alors est-ce que ça va continuer cette histoire, vu les drafts du soir, on peut se poser la question. Ouais, je pense que de toute façon, l'idée c'était d'avoir un beau match entre deux bons catcheurs. Il y a eu un perdant qui respecte quand même un peu la position sur la carte hein, Kevin Owens, oui, qui est un champion du monde et multiple, a plus de légitimité. Espérons que ça plombe pas trop Aleister Black pour la suite, mais bon, il y a de quoi espérer quand même une petite reprise en main. D'autant plus qu'on va avoir des indices suivants juste après, puisque Stephanie McMahon nous annonce un nouveau round de draft. Et là, il se passe beaucoup de choses, puisque Raw récupère Braun Strowman, Matt Riddle et Jeff Hardy, donc trois drafts. Trois transfuges, et SmackDown préfère garder Daniel Bryan et faire venir Kevin Owens. Là, on a un beau tour, hein, un beau segment. Qu'est-ce que t'en dis de tout ça?
Bah, toi qui aimes le changement, là, t'en as eu, parce que même Daniel Bryan qui reste à SmackDown, finalement, Daniel Bryan étant absent des écrans depuis quelques mois, c'est comme si finalement il venait d'arriver à SmackDown. Donc,
oui.
Là, on a du beau changement. Alors, la première surprise pour moi, peut-être, c'est Kevin Owens qui part à SmackDown. Donc finalement, il croise dans les couloirs The Finn, Bray Wyatt. Donc, est-ce que finalement cette rivalité est terminée?
Mystère.
Kevin Owens, Bray Wyatt. Si c'est le cas, je serais vraiment déçu, pour être tout à fait honnête. Je pensais vraiment qu'il y avait un beau programme là à faire pour un petit peu reboot Kevin Owens. Comme le font chaque personne qui croise le chemin du monstre. Moi j'imaginais pas mal de choses. Un petit retour de Kevin Owens à son. Comment c'était son gimmick de fighter, hein, de bastonner, le mec qui va fight low and fight, quoi. Hein, les belles heures d'NXT. Là, je sais pas. Ouais. Donc je suis assez curieux de voir ça. Voilà, on transfère Matt Riddle, Jeff Hardy de la mid-card vers le show rouge. Très bien. Jeff Hardy avait fait le tour à SmackDown avec le titre IC Intercontinental. Matt Riddle, assez haut, une des surprises quand même. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Matt Riddle, il y a toujours des mecs comme ça. De toute façon, l'année dernière c'était déjà le cas, où des mid-carders qui se retrouvent super haut et qui finalement on se dit les mecs, il y a un push qui les attend,
ouais,
visiblement.
Difficile à dire. Moi je suis pas... C'est bizarre, là, sur ce draft, je me suis dit, Monday Night Raw, il y a 3 heures de show, mais alors le draft de Braun Strowman, qui était quasiment acté, hein, puisque ça fait depuis qu'il a perdu son titre mondial, qu'il est plus souvent un Raw à chercher Raw Underground, qui est d'ailleurs toujours porté disparu, Raw Underground. Et donc là, c'est un peu triste, je trouve, qu'il soit si haut dans la carte et que pourtant ça fasse... ça fasse un peu flop. Alors il a trouvé un adversaire là, a priori Braun, il est en feud avec Keith Lee, mais c'est vrai que il y aurait tellement à faire avec Drew aussi dans les parages, comme on disait. Matt Riddle et Jeff Hardy, j'étais un peu inquiet pour eux, dans le sens où il me semblait qu'ils avaient plus un terrain de jeu à SmackDown qu'à Raw, surtout pour Matt Riddle, pour débuter, parce qu'il vient d'arriver quand même. Mais pourquoi pas, Jeff Hardy, je sens qu'il est toujours relativement bien utilisé et relativement haut sur la carte. Plutôt positivement surpris par Owens, moi, et même si ça me désole que la feud se termine avec le Fiend, parce qu'effectivement il y avait surtout plein d'interactions sympas au micro à faire et in-ring, Et ben, je vois comme toi ce qu'il attend à SmackDown et je me dis qu'un Owens babyface contre un Roman Reigns heel,
Ouais.
ça m'intéresse aussi quand même.
Ouais, c'est comme.
Ouais.
Voilà, cette draft n'est pas parfaite, mais il y a quand même des beaux match-ups à venir à chaque fois, en fait. Là, que t'as raison, là, Cody Kevin Owens versus Roman Reigns. Ouais, carrément, carrément, on veut voir ça.
Ah ben bien sûr, mais nous verrons ça peut-être un petit peu plus tard. Avant ça, nous aurons un nouveau show pour Monday Night Raw. C'est le Miz TV qui débarque dans le show rouge, un des grands shows de SmackDown. Donc le Miz TV est avec John Morrison. D'ailleurs, il se moque un petit peu du split de Heavy Machinery et il laisse sous-entendre qu'ils sont un peu derrière tout ça. Et ils invitent au passage Mandy Rose et Dana Brooke, c'est leurs invités du soir. Bah, le Miz dit qu'il devrait être remercié pour le draft de Mandy Rose parce que depuis qu'elle est à Raw, bah, elle a une partenaire, elle se met à gagner, elle est dans le spotlight. Mandy Rose a dit ouais, enfin t'as pas fait ça pour être gentil, tu fais ça pour ruiner la vie des gens, c'est vraiment très très méchant le Miz, je voudrais bien te mettre une baffe. Le Miz il en profite pour informer Dana Brooke, qui lui dit fais gaffe, ta copine nouvelle là, dès qu'il y a un beau gosse comme Otis dans les parages, elle oublie ses amis, hop, regarde ce qui est arrivé à Sonya Deville, tout ça. Débarque là la fabuleuse tag team de Natalia et Lana. On a là un segment très blonde et vêtements de cuir, hein, et ça se met à se fighter 4 fights en talons entre les 4 demoiselles. On part à la pub, et quand on revient, ben, les filles, on a passé un coup de balai, elles ont disparu. Le Miz nous dit, oh, bah voilà, ça a un petit peu été le bordel avec les meufs, mais j'ai toujours un invité en plan B, et mon invité, c'est John Morrison, heureusement, puisqu'il est là. John Morrison, le plan B est meilleur que le plan A, nous dit Morrison, mais il n'a pas le temps de placer grand-chose puisqu'ils sont interrompus par la désormais revenante musique effrayante du freak du deuxième monstre de la WWE. Lars Sullivan arrive et Miz et Morrison essayent de faire front, mais quand Lars Sullivan se jette sur John Morrison, le Miz fuit et il ne peut qu'assister, terrifié, à la destruction du corps de son partenaire. Alors, ben, c'est un peu lâche de la part du Miz, mais en même temps, est-ce qu'on n'aurait pas tous fait pareil? Est-ce que si on avait été face à face, est-ce que tu m'aurais laissé être détruit par Sullivan ou tu serais
Non
resté?
seulement je t'aurais laissé, mais j'aurais aussi posé un petit billet en plus.
Ah oui, d'accord.
Ah oui,
Bon, c'est
pour
bon
ça,
à savoir.
oui. On est comme ça à Ketchup.
C'est vrai, c'est vrai.
Solidaire.
Toujours. Alors, qu'as-tu pensé de tout ça?
Oh, c'était nul. Oh la
J'ai
vache.
tenu.
C'était vraiment. Oh. Là, tu te dis, j'espère qu'on est dans le creux et que ça peut qu'aller mieux après cette longue séquence pauvre qui pédalait dans la semoule où les transitions étaient nazes, comme tu l'as dit. On est passé d'un Miss TV avec les filles à complètement autre chose après. Non, franchement, il n'y avait rien à retenir, tout était acheté. Voilà, Lars Sullivan a déjà fait son retour, donc franchement, il y avait rien à garder là dans ce qui s'est passé là.
Ça t'a pas emballé. Ouais. Alors, Lars
Non,
Sullivan.
ça... Ah oui, non.
On ressent bien. Ben, Lars Sullivan, il reprend exactement comme quand il était parti. Donc pour le moment, on ne sait pas trop qui est-ce qu'il va viser, puisqu'il détruit un petit peu tout le monde au pif. Et puis oui, bon, je suis bien d'accord avec toi. Ce sont Mandy Rose, Dana Brooke qui prennent le micro et qui doivent tenir un segment. C'est pas gagné, c'est sûr. Donc c'était pas très intéressant tout ça. Mais on va revoir toutes ces personnes un petit peu plus tard dans le show. Enfin, surtout les filles. On va revoir les filles. Tu te posais la question. Bah, les Street Profits, s'ils sont champions d'Euro et ils sont draftés à SmackDown, eh bien figure-toi qu'en coulisses, on croise le GM non officiel de Monday Night Raw, c'est-à-dire Adam Pearce, qui avec le New Day et les Street Profits, donc les New Day, ils ont le titre tag team de SmackDown et ils sont à Raw. Et les autres, ils ont le titre de Raw et ils sont à SmackDown. Et bien Adam Pearce, qui a réfléchi longtemps et qui s'est inspiré des plus grands bookers de la WWE, et il a dit, vous allez faire un échange de ceintures, Playa. Et les mecs, ils disent, ok, ils échangent les ceintures. Sauf que Bobby Roode et Dolph Ziggler, ils sont vénères parce qu'ils disent la semaine dernière, nous, on a réussi à battre dans le 3 contre 3, on a réussi à battre les champions de Raw. Donc on veut un match contre les champions de Raw. Et du coup, bah, le New Day dit, bah ouais, enfin, ok, il y aura un match pour les championnats d'Euro. Et puis voilà, alors, bah, cet échange, est-ce que c'est pas un petit peu humiliant, vexant, outrageant pour les ceintures? Et puis est-ce que ça compte comme des nouveaux titres? Est-ce que les Street Profits sont maintenant two-time tag team champion à la WWE? Qu'est-ce que t'en dis, toi, maître statistique?
Bah, la question que je me suis posée au sortir de cette séquence, c'est effectivement, est-ce que là, on vient d'assister à une addition, une incrémentation du nombre de titres pour à la fois Street Profits et New Day, qui du coup seraient 10-time champions, tag team champions, dans la plus parfaite ignorance et de la façon la plus triste possible. Je ne sais pas s'il y a eu une réponse officielle à cette situation. Puisque ouais, je sais pas. Je sais pas. Si je suis en train d'essayer de rechercher, mais c'est vrai que c'était triste. Alors, c'était pas une mauvaise, enfin, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est quand même triste. Je sais pas
Ouais.
comment je le tournerais, parce que effectivement, c'est une façon logique de pas se prendre entre guillemets presque drôle finalement. Oh bah vous
Ouais.
avez juste échangé les ceintures, mais j'ai trouvé que, un, ils n'avaient pas réussi à rendre ça aussi drôle en fait. Limite, ils auraient dû faire tout un segment où tu as des avocats qui arrivent, tu essayes de résoudre mais comment on va faire pour résoudre tout ce truc, et à la fin, on dit, bah attendez, il y a juste à échanger les ceintures, et ah bah oui, tiens, c'est bon. Enfin, je sais pas, il y avait sûrement quelque chose un peu plus comique à écrire que ça, donc il y avait juste une idée. Donc voilà, ou alors il aurait fallu faire autre chose. Mais au final, c'était assez, ouais, assez triste, quoi, cet échange.
Ouais, je partage ton point de vue, surtout que le New Day vient juste de revenir, tu vois, de le gagner à SmackDown et c'est un peu bizarre. Et puis en plus, surtout, moi ce qui me dérange, c'est que au début du draft, on nous a dit un truc, c'est les titres suivent les champions. Ça a été dit quand même. Donc c'est-à-dire, si t'es champion quoi que ce soit et que t'es drafté, bah tu lâches pas ton titre, tu pars. Voilà, si Drew McIntyre avait été drafté à SmackDown, champion WWE était à SmackDown. Enfin, et là, bon, évidemment, c'était évident. Enfin, ça, c'était sûr qu'ils allaient faire un truc comme ça, mais ouais, ça fait un peu par-dessus la jambe. C'est ce que j'ai trouvé un peu dommage. Je suis assez d'accord avec toi. Je sais que ça n'a pas été loin de faire plaisir à tous nos camarades de catch-up, mais ouais, non, c'est un peu dommage. Alors, si tu veux avoir une piste de réponse à ton interrogation, moi, il me semble bien avoir entendu l'un des commentateurs plus tard dans la soirée nous dire que le New Day était toujours à égalité des titres mondiaux avec les Dudley Boys. Donc, peut-être que. A priori,
D'accord.
ça compte pas pour un de plus, mais ça ferait bizarre, c'est assez incompréhensible. C'est.
Bah ouais, assez incompréhensible. C'est bah oui, parce que comment t'es obligé, ils sont séparés. L'historique de
Ouais.
ces les règnes de ces ceintures sont séparés, hein. Ils sont
Bah
pareils,
oui.
mais séparés. Donc tu peux pas faire comme si finalement c'était le même titre tout d'un coup.
Bah.
Après, la WWE est maîtresse de son histoire et de ses propres règles
Bien sûr, mais.
qu'elle arrange selon sa convenance, mais. Mais c'est vrai que moi je préférerais que ça soit incrémenté. Juste, bah voilà, c'est deux nouveaux champions. Et puis, de toute façon, et puis tu en fais un angle derrière pour envoyer plein de challengers, dire, mais attendez, vous n'êtes pas légitime là, on vous les a juste refilés comme ça, ces ceintures. Donc voilà, j'espère qu'au moins ils vont en faire quelque chose. C'est ça qui m'embêterait le plus, c'est qu'ils en fassent rien du tout, finalement, de cet angle-là. Mais que ce soit juste une façon. Bête d'échanger les ceintures. À défaut,
Bah.
effectivement, de potentiellement les fusionner, ce qui aurait pu être
Une
un angle
possibilité,
encore plus excitant. Hein.
ouais. Ouais. Oui, ça aurait été sympa, mais je crains qu'ils en fassent rien, malheureusement.
Laissez-moi en douter.
Bon, je te laisse espérer. Je te laisse espérer. Pendant ce temps, par contre, on va continuer le draft, hein, Irem, on peut pas
Ah oui.
t'attendre.
Oh bah non.
Et nous partons pour un tour ô combien sulfureux et polémique, puisque Stephanie McMahon annonce que Monday Nitro a choisi Retribution, donc Retribution drafté à Raw, donc tous les mecs,
Des employés modèles.
voilà, les masqués, les machins, et avec Mustafa Ali, bien sûr. Raw récupère aussi au passage Keith Lee et Alexa Bliss, donc ça draft. Et SmackDown récupère Lars Sullivan et Corbin, voilà, deux génies qu'on aurait hâte de voir s'affronter sur le ring. Je ne sais pas ce que t'as.
J'avoue, là, Lars Sullivan et Kick Corbin, bonne pioche hein, pour SmackDown.
Ouais, alors qu'est-ce que t'en penses de cet angle de Retribution très très critiqué hein, parmi nos camarades? On vous dira plus tard l'avis sur le show de nos amis Chris et Papy, mais.
Alors, d'après toi, c'est quoi le plus gros problème? C'est que Retribution a été sélectionné comme n'importe quel autre membre du roster, alors qu'effectivement, ils ont tout à fait un contrat, hein, ça,
oui, bien
on va
sûr.
Dire, les... d'un point de vue RH, ils sont au même niveau que King Corbin et Braun Strowman et tous les autres. Mmh. Ou alors, que l'annonce qui nous avait été faite, la promesse qui nous a été faite que Mustafa Ali allait nous rendre des comptes et nous expliquer le pourquoi du comment, c'est comme si c'est comme ça, Retribution, n'ait pas eu lieu.
Ah.
Parce qu'on nous avait quand même annoncé que Mustafa Ali allait s'exprimer sur, sur Retribution. Pourquoi, comment, d'où vient-il, que font-ils, quels sont leurs réseaux, et que finalement on n'a rien eu de tout ça.
Ah, mais Retribution vient quand Retribution veut, et pas quand nous on veut.
Bah oui, donc là est-ce que ça va être un angle encore, genre, vous voyez, on nous a dit qu'on allait avoir un... 5 minutes pour nous exprimer, et puis on nous l'a enlevé, vous voyez le système. Je ne serais pas étonné qu'ils fassent ça, mais une fois de plus, on vit dans, la... dans l'espoir perpétuel.
Ouais. Dommage. Mais par rapport à ce qu'on avait eu la semaine dernière et qu'on avait analysé tous les deux avec cette incroyable annonce de Mustafa Ali, putain, c'est... Enfin, ok de pas faire des segments toutes les semaines, mais là il le fallait. C'est juste après avoir eu le gros choc, le premier gros choc depuis l'histoire de cette storyline, qu'il fallait qu'on nous en parle. Et là, on nous traite ça comme... Moi, ça me gêne beaucoup quand même qu'on nous traite ça comme n'importe quelle équipe et que Raw les choisisse. En plus, avec le passif qu'il y a de l'histoire des mecs qui sont free agents, comme on a déjà eu, on sait que la WWE peut écrire une petite intrigue là-dessus. C'est évident qu'ils auraient pu être free agents et puis revenir la semaine prochaine pour... tout défoncer à nouveau en disant c'est un scandale qu'on soit free agent machin et qu'ils aient peut-être pas, je sais pas, par exemple un match contre le Hard Business pour faire signer leur contrat ou valider leur transfert à Raw, je ne sais pas. Là bon, ceux qui vont être à Raw, ils se sont même pas battus pour moi, ça me pose quand même problème. C'est pas raccord, quoi. C'est pas raccord et il faut vraiment avaler gros là la couleuvre scénaristique pour se dire ouais, c'est une tag team, c'est une faction comme une autre.
Alors qu'on nous montre depuis des mois que c'est pas une faction comme une autre.
Ben oui, un peu compliqué.
Donc, il faut la traiter ainsi et pas commencer à faire commencer à trop réfléchir, toi, parce que là, effectivement, concrètement, ils ont été traités comme n'importe quelle équipe, comme n'importe quel membre, et ils n'ont pas eu de séquence à l'écran, alors que effectivement, c'était la grosse révélation choc de la semaine dernière.
Ouais.
Alors du coup, ça veut dire quoi? C'est à nous encore d'imaginer ce que ça va pouvoir être la semaine prochaine, de tirer les traits entre les points, là, comme on dit. Enfin, non, on en a bouffé pendant des semaines de Retribution. Maintenant, on veut être récompensé, quoi. Il faut assumer. Il y a l'impression qu'ils n'assument pas, qu'ils ont peur de l'eau tiède.
Ben ouais, c'est bizarre.
C'est nimp. C'est nul. C'est naze.
C'est nul. Allez, disons-le, c'est naze. Et on passe à la suite. Alors, ben, il y a eu un gros draft, hein, ce dernier SmackDown, c'est Seth Rollins, le Monday Night Messiah, qui quitte Monday Night Raw, qui part à SmackDown, justement. Donc, Seth Rollins vient nous faire ses au revoir, ses adieux. Hein. Il est au milieu du ring, il est relativement ému, il nous dit qu'il remercie tous les incroyables fans de Monday Night Raw et que Raw perd un champion, perd un conquérant, perd un messie, hein, celui qui se bat pour le plus grand bien. Et il se demande qui va pouvoir marcher dans mes traces, quoi. Qui aura cette figure à Monday Night Raw. Bon, c'est pas la famille Mysterio puisqu'ils partent à SmackDown aussi. Et là, il est interrompu par Jeff Hardy qui débarque. Jeff Hardy qui vient juste d'être drafté à Raw, comme on l'a dit un peu plus tôt. Du coup, Seth, il lui dit, mais Jeff, là, c'est pas ton moment, quoi. Moi, je cherche un vrai leader, pas toi, là. Va-t'en, de toute façon, tu ferais mieux de te préparer parce que vendredi à SmackDown, tu affrontes Lars Sullivan. Voilà, il lui lâche une petite info. Et très très étonnamment de la part de Rollins, qui a quand même bien parlé, à qui il vaut mieux, c'est difficile d'enlever le micro des fois, Seth Rollins finit ses adieux là-dessus, il lâche son micro, il s'en va, il laisse Jeff Hardy un peu au milieu du ring tout seul. Sauf que c'est pas fini, AJ Styles débarque, AJ Styles qui a un nouveau transfert de Monday Night Raw aussi. Ils croisent Seth Rollins, ils font une petite blague en se foutant de la gueule de Jeff Hardy. Sauf que AJ Styles au passage il dit à Seth Rollins, ouais c'est bon, tu peux te casser, c'est plus Monday Night Rollins ici. Et du coup, Seth, il est un petit peu vénère, il revient sur ses pas, il dit attends, qu'est-ce que tu racontes là?
Hop, je vous arrête tout de suite, monsieur.
Ouais, tu me parles pas comme ça, s'il te plaît, moi je t'ai rien demandé. Il commence un peu à se fight. Jeff Hardy, il en profite pour sauter par-dessus les cordes, faire tomber les deux hommes, là, des suicide dives et puis quelques dropkicks. Et il en profite pour prendre le micro pour dire allez, les deux là, Bah, maintenant que je suis à Raw, c'est un peu mon ring. Et bah, il nous commence une belle série. Très belle, très beau début de Jeff Hardy à Monday Nitro. Qui nous dit, on va faire un petit triple threat tag team match. Ah bon? Alors, qui est-ce qui va chercher Et puis en fait, Jeff Hardy était complètement bourré, comme d'habitude. C'est un triple threat tout court. Il n'y a pas du tout de tag team match. Je sais pas trop ce qui nous a botché là. Ça n'empêche pas d'être en feu dans le début du match. Hein. Donc Jeff Hardy contre AJ Styles contre Seth Rollins. On peut dire que sur le line-up, c'est pas dégueu. Il est chaud d'abord un peu Jeff Hardy. Il balance un peu tout le monde dans tous les sens. Puis les deux méchants finissent par s'allier pour le tabasser. Avant évidemment de se trahir, de se tenter des roll-up réciproques. Ça part dans tous les sens. Le match, il est vraiment dynamique. Jeff Hardy, il n'arrive plus à rentrer sur le ring à un moment donné. Tout le monde le maintient dehors. Dès qu'il essaie de remonter, il prend un pain dans la gueule. Seth Rollins lui fait un suicide dive. Puis Seth Rollins fait un suicide dive sur Hardy et sur AJ Styles qui était parti hors du ring aussi. Jeff Hardy, au milieu du ring, il fait Whisper in the Wind sur les deux. À ce moment-là, petite anecdote, je remarque que dans le public du Thunderdome, il y en a un qui a un magnifique drapeau français bleu, blanc, rouge en fond. Je ne sais pas si on sait qui est cet homme, mais c'est un fan de catch français, visiblement.
Bah, si c'est un catch-upper ou une catch-upeuse, qu'il se...
Et oui, faites signe.
Voilà, qu'il se
Mais
lève.
manifestez-vous, levez-vous. Bref, on a à peine le temps d'être déconcentré par ce drapeau bleu, blanc, rouge que AJ Styles fait un reverse DDT sur Jeff Hardy. AJ Styles n'a pas le temps de pavoiser que lui, il prend un Falcon Arrow de Seth Rollins. Seth Rollins qui s'élance pour faire un curb stomp. Et là, Jeff Hardy prend appui sur le dos d'AJ Styles pour placer un DDT un peu à la volée. Joli move, mais ça fait near fall. AJ Styles coince Seth Rollins dans le calf crusher. Seth Rollins, il a mal, il crie, il est sur le dos, il se tord de douleur. Et Jeff Hardy, boum, lui tombe dessus, un swanton bomb. AJ Styles essaye de voler le pinfall, mais ça fait juste simplement deux, near fall. Jeff Hardy part pour un twist of fate sur AJ Styles. Et là, on n'est pas au bout de nos surprises ce soir. Incroyable. Jeff Hardy reçoit une guitare sur son dos. Boum. Elias est de retour. Elias, on rock with Elias, on walk with Elias. AJ Styles n'en demande pas tant. Il place un petit pin discret. Donc victoire d'AJ Styles sur ce triple threat qui a été dynamique, animé. Seth Rollins, voilà, finit sa carrière à Monday Nitro, finalement un petit peu en dessous. Mais par contre, Elias se rappelle à notre bon plaisir. Est-ce que tu es choqué? Est-ce que c'est un retour inattendu, inespéré? Est-ce que tu es content de revoir Elias? Et est-ce que tu as bien aimé ce match-là, IRM?
Moi, j'ai beaucoup aimé ce match, comme tu l'as bien raconté. Ça allait à 100 à l'heure. Les trois hommes ont brillé. Ils ont tous défendu un petit peu leur position là, de mâle alpha, de représentant de leur brand, légitime ou non, pendant un match qui allait à 100 à l'heure. Qui, effectivement, alors j'étais un peu triste parce qu'il n'y a pas eu de hot tag.
Eh ben non.
Pour un triple threat tag team match, c'est quand même regrettable.
Le
Mais bon,
pauvre.
les partenaires sont tous restés dans leur coin. Et donc ce match était super. Seth Rollins qui effectivement part perdant, mais en nous livrant un dernier gros match. C'est vrai qu'il a fait toute sa carrière à Raw. C'est assez incroyable quand tu y repenses. Donc il laisse un peu la place aux nouveaux arrivants. Donc c'est plutôt logique. Et puis ce retour de bah, du voilà du chanteur préféré des Français, Elias. Bah moi je suis ravi parce que j'adore ce personnage. Je suis heureux qu'il soit clairement heel à nouveau, parce que son run de babyface, c'est pourri. Donc là, il va pouvoir encore nous partager bah, sa créativité, hein, ses belles chansons, ses beaux accords. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tous les mecs qui reviennent s'en prennent à Jeff Hardy, là.
Ah ben oui, là c'est putain le
Donc on pourrait avoir
pauvre.
un angle assez sympa de mid-carder heel qui reviennent et qui tabassent Jeff Hardy pendant des semaines.
C'est vrai, ça serait rigolo. Alors je peux même te donner une très bonne nouvelle. Un peu plus tard dans la soirée, nous avons vu Charlie Caruso avec justement Elias. Et ben Elias finalement, il est pas si con. Enfin, il est pas si con. En tout cas, il a bonne mémoire parce qu'il est quand même absent depuis un accident de voiture. Et d'après lui, bah, c'est bien Jeff Hardy qui lui a causé cet accident de voiture, qui lui est rentré dedans. Alors Charlie Caruso a beau lui dire, la police fait son travail, l'enquête est toujours en cours, nous vous tiendrons au courant aussi vite que possible. Non, non, Elias, il l'a toujours mauvaise contre Jeff Hardy. Et ben, à ta grande satisfaction, il nous annonce surtout la sortie de son nouvel album, donc le 26 octobre, un album qui s'appelle Universal Truth. Et la semaine prochaine, il nous gratifiera d'un magnifique concert. Donc soyons prêts, Elias is back, ça va chanter, ça va drifter à la WWE. Et ben on va faire la transition. Monday Night Raw ne perd pas une miette puisque Stephanie McMahon repart pour un draft et la première pick de Monday Night Raw c'est Elias. Alors je sais pas qui parce que ça on nous a jamais expliqué qui sont les gens de Raw et de SmackDown qui choisissent leur pick, mais en tout cas ceux-là visiblement les drafts elles se font en fait moi je pensais que c'était préparé à l'avance sur des fiches, mais non, ça se fait dans la minute puisque Elias a à peine eu le temps de péter sa guitare sur le dos que déjà vous êtes dans mon équipe. Là hop, le fauteuil de Rose est retourné, là, on vous prend. Allez, on vous prend.
Alors, effectivement, c'est surprenant, mais si ça suit un petit peu on va dire les mécaniques de draft dans les sports américains, tout se fait en live, hein, effectivement. Se fait en live. Bah, un peu comme on avait vu à l'époque où on voyait les réactions en direct des chaînes de télé, tu te souviens, avec le oui, robot de la Fox, et la salle de prod qui était en délire quand ils ont Natalia. Sélectionné Natalia. Oui. Voilà, tout ça c'est finalement on en rigolait, mais c'est quand on a pu qu'on se rend compte que c'était pas si mal que ça rajoutait un peu de débit,
c'est vrai.
De loufoque dans le truc, donc effectivement tu peux être étonné de dire ah bah les mecs ils voient un retour d'Elias, ah oui il est chaud, bah vas-y vite on le prend quoi, toi ils jettent dessus. Après il y a le système de fiches que reçoit
c'est un peu délicat, ouais.
Du coup ça peut finalement, il y a les 5 prochains pics qui sont inscrits, donc bon, mais ouais, ça se tient. Allez. Franchement, dans l'univers WWE, ça se tient.
Alors,
moi, je suis ravi pour Elias, je vais pouvoir réécouter son nouvel album avec plaisir. Sache que par exemple, exactement, à chaque fois que je roule, je mets une petite, c'est partie de ma tracklist, les chansons d'Elias, qu'on part en vacances avec les enfants. On a notamment sa célèbre chanson là où il liste toutes les villes des États-Unis qui sont tout à fait indignes de sa présence.
Ah oui,
et ça me motive, voilà. Un jour peut-être il citera, je sais pas, Saint-Malo ou le Gros du Roi,
Corbeil-en-Essonne, je sais pas.
Ah ouais.
Je ne sais pas. Ah bah, mais en tout cas pour tes prochaines vacances de la Toussaint, le 26 octobre, ça c'est jouable. Tu peux écouter le CD dans ta voiture.
Oh oui.
Et bien là-dessus, la draft donc continue. Alors SmackDown en échange garde son champion intercontinental, Sami Zayn. Je pense que c'est une très bonne chose pour lui. Raw récupère Lacey Evans et Sheamus passe à Raw. Ça c'est quand même un message d'importance. Ça veut dire que la feud avec Big E a l'air d'être à peu près finie. Et oui. SmackDown garde Cesaro et Nakamura. J'en profite pour dire que je suis un peu content pour Cesaro qui a l'habitude dans les drafts d'être toujours le plus bas possible. Là, il est un peu moyennement haut.
C'est bien formulé, ouais. C'est il est avant Riddick Moss.
Voilà, c'est pas le tour le plus ouf là, mais quand même, Sheamus à Raw, moi je suis assez impressionné de voir comment la mid-card, si tu réfléchis, donc on a dit que, ben, là on vient de les voir, hein, c'est-à-dire Jeff Hardy, AJ Styles, Sheamus, qui c'est qu'on a d'autres, ben, Matt Riddle, enfin, on a l'impression que toute la mid-card de SmackDown se barre à Raw, non, t'as pas ce sentiment
Ouais, on pourra, c'est vrai, oui non, t'as raison, la mid-card se barre à Raw. La mid-card se barre à Raw en fait. Et ben voilà. Après, c'est le meilleur endroit. Après, SmackDown a toujours eu cette position de pusher justement, peut-être de transformer des mid-carders en top stars.
C'est vrai.
Donc, mais à l'inverse, Monday Night Raw, il y a 3 heures et c'est presque le mieux pour des mecs comme ça, quoi, d'avoir du temps d'antenne, d'avoir ces mid-carders. Donc. Moi, je suis très content pour Sheamus parce que moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un Sheamus versus Drew McIntyre. Avec le passif des deux hommes.
Putain, ouais.
Ils se connaissent depuis qu'ils sont sur les bancs du lycée, quasiment, ces mecs-là. Ils ont fait leur classe ensemble. Ils ont été témoins de mariage à chacun de leurs mariages. Ils se connaissent bien. J'ai envie de voir une lutte âpre. Et pourquoi pas avec au commentaire l'ancien leader de la Nexus.
Ouh, alors là. Toi, t'es British, t'aimes ça les Anglais, mais alors c'est vrai qu'une affiche irlandaise-écossaise, moi je vends, là j'achète. Là ouais. Sheamus qui redevient main eventer, il est chaud bouillant pour. Hein,
Ah oui.
aucune crainte pour lui, donc on a hâte de voir ça. Après, suite à la draft, on aura sûrement peut-être des créations de tag team aussi, hein, ça peut un peu remplir certaines divisions. Des mecs qui vont se mettre ensemble parce qu'il faut un peu, comme Cesaro et Nakamura, un petit peu de nulle part à la base, mais qui peut faire des bonnes équipes. On verra ce que ça donnera sur les semaines à venir. Ouais. Allez, un petit passage par ce qu'on va appeler le fin fond de la low card. Je me permets de d'émettre ce jugement puisque nous avons Mandy Rose et Dana Brooke contre Nata Lana. Et puis ben voilà le finish du match, c'est Mandy Rose, elle met le genou dans la gueule de Lana. Dana Brooke, elle fait un senton bomb un peu aidée par Mandy Rose pour faire la bascule. Et les gentils gagnent. Et du coup, Natalia, elle dit à Lana, ça va, j'en ai marre de ce truc là. Moi, c'est fini, je me casse. Et Lana, elle est toute triste au milieu du ring. Est-ce que tu as trouvé ça bien?
Bien merdique, oui.
Bien merdique, voilà. Eh ben, écoute.
Natalia, j'ai l'impression qu'elle fait cet angle-là, cette storyline-là, tous les ans. Hein, d'avoir chopé une petite jeune et qu'en fait, elle est déçue et du coup, elle s'en va.
Ouais.
Et juste, si tu pouvais arrêter de les appeler Natalana, parce t'aimes qu'en fait, quand tu donnes un nom à quelque chose,
ça existe.
Tu lui donnes de l'importance et ça existe.
Ah, pardon. J'avais l'impression qu'en donnant moins de syllabes, ça leur donnait aussi moins d'importance. Mais d'accord.
Oui, mais regarde, du coup, là, on en parle. Et toi, oui, et ça commence à devenir réel pour moi.
Ah, pardon. Mais c'est fini, c'est fini. Natalana is dead. Voilà.
Merci.
Eh ben, on passe à la suite, hein, du coup. Alors, gros segment qui va plaire à notre ami Tonton Chris, énorme moment. Ricochet croise le Hurt Business entier. Et alors, à ma plus grande surprise, personne ne fait mention de ce qu'on pourrait appeler la trahison de Mustapha Ali. Quand même, Mustapha Ali, c'est le pote de Ricochet. Eh ben non. Tout ce qu'il dit Ricochet, c'est qu'il dit « Ok les gars, j'en ai marre qu'on se mette sur la gueule. Enfin, que je me mette sur la gueule avec vous pendant des semaines, ça vous sert à rien, ça me sert à rien. Alors ce soir, je veux affronter l'un d'entre vous. Si je gagne, on arrête la FUD. » Ricochet, il est modeste hein, dans ses victoires. Hein. Si je gagne, juste vous me laissez tranquille.
Oh là là.
Et si je perds, je rejoins le Hard Business, c'est promis. Alors du coup, Cédric Alexander, il dit « Allez, vas-y, ça c'est pour moi, ça c'est mon boulot. » Donc, même si le match a lieu bien plus tard, je vais le résumer maintenant, parce que c'est quand même un grand moment de ce show. Donc, Alexander, Cédric Alexander contre son ancien pote, il est chaud et bouillant, il lui envoie des gros athées, mais une souplesse, il le tient cloué au sol, il lui met des baffes même sur les conseils de MVP, hein, qui lui dit « vas-y, slap him, allez hop, bien, bien agressif ». Le Cédric, il revient bien du bootcamp du Hard Business, là. Mmh. Sauf que pendant une série de kicks de near fall, l'arbitre prend un coup dans la tronche. On appelle ça un ref bump pour le terme technique. MVP, il est vraiment réactif, hein, le MVP. Il va chercher une chaise à toute vitesse, il la donne à son poulain. Sauf que c'est Ricochet qui la chope au passage. Ricochet attrape une chaise, il s'apprête à taper Cédric Alexander pendant que l'arbitre se remet doucement de son KO. Tout le Hard Business l'invective, fais pas ça, vas-y, tout ça. Et là, Ricochet, l'étincelle s'allume dans son œil, malin comme un puma. Il tape avec la chaise, mais pas sur Alexander. Il tape sur le sol pour faire du bruit. Il jette la chaise à Cédric Alexander, qui, très intelligemment, la rattrape au vol. Et Ricochet, tombe en pamoison. Là, l'arbitre se retourne. Qu'est-ce qu'il voit? Alexander, la chaise dans les mains. Ricochet qui gît dans son propre sang. Non, j'exagère, il n'y a pas eu de sang. Mais voilà, la déduction dans la tête de l'arbitre ne fait qu'un tour. Ricochet a gagné par disqualification. Et il s'en va, il est très content, il rigole. Petit hommage à Eddie Guerrero. Ricochet ne rentre pas donc dans le Hard Business. Et a priori, la feud s'arrête là. Et voilà, et pas de mention de Mustapha Ali, ni de rien d'autre. Est-ce que tu as trouvé ça très rigolo ou complètement nul?
Alors, est-ce qu'on peut quand même rendre hommage à, je crois, la stipulation la plus... déshonorante qui soit pour un catcheur.
C'est vrai. Hein.
Que lui-même ajoute au match,
ouais.
Qui est quand même, je pense, on peut appeler ça une victim stipulation match quand même.
Oui.
Le match de la victime. Parce que le mec arrive, c'est le mec bully, quoi. Tellement, le mec est vraiment, il se fait taper à la récré toutes les semaines, qui dit, bon, cette fois-ci, on fait un match, mais après, vous me laissez tranquille. Hein. Genre.
Et si je perds, je viens avec vous.
Si je perds, je viens avec vous, mais... Quel homme sur terre avec un tant soit peu d'honneur,
d'amour propre,
oserait, surtout dans un ton catcheur, hein, le mec déjà se plaint que toutes les semaines il doit se battre.
Ouais.
Mec, t'as signé un contrat à la WWE. Peut-être que à la Lucha Underground c'est différent, mais là on est à la WWE, on se bat pour se battre. C'est ça le catch, on se bat pour se battre. Et le mec vient et dit j'en ai marre de me battre avec vous, laissez-moi tranquille. Non mais. Quelle honte, quel sous-homme que ce Ricochet. Un sous-homme. Pour autant, il s'est quand même un petit peu rattrapé avec ce final, qui, je dois l'avouer, m'a bien fait rigoler. Parce que cet hommage, effectivement, à Guerrero était formidablement joué.
Ouais.
Et je ne dis pas tout est pardonné, mais bon, allez, Ricochet, là, tu nous as offert hein, voilà, un chant du cygne magnifique pour ta carrière incroyable dans le main roster de la WWE. Tu peux partir, voilà, l'honneur est sauf. Va-t'en maintenant, s'il te plaît.
On ne sait pas.
Va et reviens, ne reviens pas.
Et on ne sait pas ce que dirait notre ami tonton Chris qui adore pourtant Ricochet, mais lui, il trouve que... Tonton Chris trouve que la meilleure chose qui aurait pu arriver à Ricochet, c'était de rejoindre le Hard Business. Alors peut-être que finalement, en proposant cette stipule, c'était limite ce qu'il aurait voulu, lui, Ricochet. Mais ouais, il s'en est bien sorti par une belle pirouette et c'était rigolo. Après, voilà, c'est bon, c'est le draft, c'est un peu le bordel, tout ça, mais ouais, il s'en sort bien, c'était rigolo. Enfin, surtout, ce que j'ai trouvé fort, c'est que c'était totalement inattendu. C'est-à-dire qu'on aurait eu ça au titre 24-7 ou autre, bon, ok. Mais là, le Hard Business, tu vois, c'est quand même des bonhommes et tout. Je m'attendais pas à ce qu'on nous trouve un comedy wrestling là, en plein milieu de ça. Donc j'étais franchement surpris et ça, je trouvais ça un peu assez frais, rafraîchissant. Après, Ricochet, voilà, il va être tout seul à Raw. Ça va être difficile pour lui. Mais là, il aura eu son segment, il aura eu son moment de gloire. C'est bien. Et ben, on continue avec ceux qui ont un petit peu de mal là, à s'en sortir en solo. Angel Garza affronte Andrade, donc les deux Mexicains qui ont fait quand même, je pense qu'on peut le dire, hein, les belles heures de ce printemps, là, quand ils étaient en tag team et qu'ils étaient tout le temps partout. Quelle déchéance, hein, ils s'entendent plus, ils s'entendent plus, ils sont plus copains, ils sont même plus copains avec Zelina qui vient quand même aux commentaires. Ils sont totalement en milieu random de cartes, ils ont perdu complètement la Latino hype. Donc ils s'affrontent l'un contre l'autre. Alors en soi, Andrade versus Garza, ça pourrait faire une très très belle affiche et on a eu déjà des beaux matchs ce soir avec Owens et avec Seth Rollins, mais là c'est pas du tout l'ambiance puisque bon, Andrade commence assez fort en envoyant un peu Garza dans le coin en lui faisant son fameux coup de coude retourné, mais dehors Angel Garza va envoyer la tête de Andrade sur le rebord du ring. Ça met un petit peu KO Andrade et Garza a le temps de le choper au milieu du ring pour lui placer son finisher. Alors je sais plus exactement comment s'appelle son finisher. Mais du coup, Garza gagne clean en 2 minutes 30, je pense.
Ouais, c'était vraiment très court. Il a placé son wing clipper, là.
Voilà,
ouais, ça durait 3-4 minutes, ce machin.
Allez, disons 3-4 minutes maxi.
2 minutes 39.
Ouais. 2 minutes 39, ouais. Un match sur lequel, en plus, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me positionner. Même si j'aimais bien les deux, on savait plus trop bah, s'il y a un heel, s'il y a un face, s'il y avait quelque intérêt que ce soit dans l'histoire. Surtout que Zelina, qui disait qu'au micro, elle a passé son temps à dire « Ouais, je les déteste tous les deux. Tout ce que je veux, c'est qu'ils se mettent sur la gueule. Ils m'ont pas écouté. » Et puis finalement, quand même, elle a un peu de pitié. Elle va voir Andrade qui est KO. Elle vient lui faire un petit câlin sur la joue. Sauf que tout d'un coup, la musique et la lumière s'arrêtent. La musique angoissante du Fiend retentit. Monday Night Raw se part de rouge, et lorsque les lumières se rallument, c'est Alexa Bliss qui est sur le bord du ring, tête à l'envers, en position d'araignée. Zelina Vega et Andrade sont un peu effrayés et ne voient pas que derrière eux se trouve le Fiend. Le Fiend attrape Andrade, Zelina Vega est attrapée par Alexa Bliss, double sister Abigail, et voilà, le couple effrayant de la WWE est donc officiellement ensemble à Monday Night Raw. Les Mexicains mangent leur pain noir là plus que de raison. Est-ce que là, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, il y a Kevin Owens derrière. Est-ce que tu crois que ça va te donner une feud ou un match, ou c'est juste histoire de faire peur ce soir et de marquer un peu les esprits aux dépens de les pauvres latinos qui sont un peu plus bas que terre là en ce moment.
J'espère. Je ne sais rien, mais j'espère qu'effectivement, on va avoir une petite feud. Intermédiaire, on va dire, une petite feud là entre les deux couples. Voilà, on a clairement, enfin là, les quatre protagonistes sont prêts à le faire. J'ai adoré cette séquence. Le double sister Abigail était, mais genre synchronisé au millième de seconde près.
C'était
impressionnant. Franchement, je me suis levé de mon siège. On le voyait venir. Et souvent, quand ils essayent de synchroniser leur prise, ils n'y arrivent jamais vraiment, quoi. Il y a toujours un petit peu de latence. Là, ils ont réussi parfaitement. Preuve du talent de ces deux catcheurs et catcheuses. Moi, je suis... Ouais, pourquoi pas. Écoute, franchement, Andrade, ça va pas du tout. Zelina Vega, elle a essayé, ça va pas. On a la chance, à la WWE, pour les scénaristes, d'avoir un outil scénaristique incroyable qui est The Fiend, qui permet de rebooter
oui.
N'importe quel catcheur, n'importe quelle catcheuse. Et bah pourquoi pas rebooter le couple Andrade, Zelina, et les faire revenir il y a un an, quoi, quand ils étaient juste tous les deux et que Zelina faisait gagner son poulain. Toi,
ouais.
Moi je serais pour ce genre de petites rivalités, de petites storylines. Je sais pas s'ils vont le faire parce que c'est pas, il y a pas beaucoup d'envergure finalement autour de ça. Mais moi je verrais bien ça arriver.
C'est compliqué parce que depuis qu'il existe, le Fiend avait quand même une gimmick de un peu de vengeur. Hein. Alors évidemment ça pouvait pas durer éternellement, mais ses premières feuds c'était clairement contre les gens qu'il avait déjà affrontés en tant que Bray Wyatt. Hein. On se souvient, il y avait une Finn Balor, il y avait eu donc Seth Rollins, Roman Reigns, Braun Strowman, évidemment, la feud avec Braun Strowman. Et là, bah, on est un peu dans un basculement de carrière pour le Finn, où il se met à attaquer des gens sans qu'il y ait vraiment de passif entre eux. Et John Cena, j'avais oublié John Cena, évidemment.
Évidemment.
Évidemment. Donc, autant Owen, c'est un dieu du micro, autant qu'est-ce qu'on pourrait raconter là entre tous ces gens, surtout que les alignements sont un peu troubles, parce que est-ce que Andrade et Zelina deviennent face, ou est-ce que c'est les
ouais.
Fiend, c'est un peu bizarre, et c'est vrai que... Mais comme tu dis, Andrade est plus bas que terre, alors je pense que c'est exagéré scénaristiquement pour mieux le faire rebondir, hein. Je suis pas du tout inquiet pour sa carrière, mais... ma foi, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça ferait bizarre là d'enchaîner après Kevin Owens, ça serait un peu... C'est un peu brouillon, mais c'est le draft, alors voilà, c'est le draft. Mais en tout cas, le... Oui.
Non, je veux dire, ouais, la situation, en fait, le temps qu'on n'aura pas, on va dire, acté sur la storyline avec Kevin Owens, c'est toujours un petit peu délicat un petit peu d'essayer de deviner ce qui va se passer. Après, les
c'est
deux, ils ont été clairement séparés durant la draft, du coup, je pense que c'est...
Ouais.
Bah, c'est malheureusement, c'est fini. Alors après, effectivement, par rapport... C'est effectivement, toi, je m'en rends compte en le disant, c'est vrai que du coup, là, The Fiend avait peut-être une fonction, commençait à devenir presque un outil trop évident. Genre, il attaque un catcheur, il dit « Ah, bah, le catcheur, il va rebooter, quoi, hein, il va revenir à ce qu'il était avant. » Pour le faire évoluer, ça peut être sympa, de par la présence d'Alexa Bliss, qui se trouve une nouvelle motivation, une nouvelle mission, en fait. Peut-être une mission... Bah, souviens-toi que Bray Wyatt, il avait toujours cette dualité via The Fiend, quoi, entre soigner et faire mal. Et il y avait toujours ça qui était en lui, finalement. Il sent qu'il peut, entre guillemets, aider les gens à être meilleurs, peu importe la forme que ça prend, que ce soit en les tuant, ou si ça peut les rendre meilleurs, bah, quitte à les tuer, on les tue. Mais voilà, ça peut être bien. Je pense qu'avec Alexa Bliss, peut nourrir ce personnage-là le poussant à devenir une espèce de justicier, toi.
C'est vrai.
D'avoir une espèce de rôle comme ça, de soigner le mal par le mal.
Ah, c'est Punisher, c'est ça.
Une sorte de Punisher, ouais.
Mm-hmm.
Pourquoi pas.
On verra bien ce qu'il en est dans les semaines à venir. La draft, elle continue. Monday Night Raw récupère Nikki Cross, qui va donc retrouver Alexa Bliss, peut-être pour poursuivre quelques interactions. R-Truth reste à Raw aussi. Et Dabakoto, le petit... Grand costaud, petit prodige de Shane McMahon. D'ailleurs, elle le dit, hein, Stéphanie, elle dit « Ah, mon frère, il va être content, tout ça. » Alors, il est drafté à Raw. Un peu plus tard, on apprendra que sont draftés à Raw aussi, parce qu'il y a eu un draft post-Raw. Riddick Moss et Arturo Rojas, là, les combattants de Raw Underground. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de Raw Underground et ils sont draftés dans le vrai Raw? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils restent dans le Raw du Raw Underground? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que tu crois que Raw Underground n'est pas mort, mais c'est, ça fait un petit moment qu'il est mal parti là. Je sais pas trop ce qu'ils en disent.
Il faut que Shane vienne nous faire un petit état des lieux là.
Ben
faut
ouais.
Que Shane prenne le micro. Pour une fois qu'on demande la présence de Shane, le mec n'est pas là. Le mec s'impose. Il est pas là et du coup, voilà, un seul être vous manque.
Et tout est dépeuplé.
Mais ouais.
Et donc, juste avant de finir ce tour de draft, SmackDown récupère Dolph Ziggler et Bobby Roode. Alors c'est formidable, souvenez-vous qu'il y a 3 mois, on avait fait un échange AJ Styles contre Ziggler et Roode. 3 mois après, finalement, chacun revient chez soi. Et Apollo Crews va à SmackDown quand même. Alors là, on parlait de mid-card un peu vite, voilà un élément qui peut être intéressant pour SmackDown, Apollo Crews. Et donc, comme il l'avait prédit, ricoché, comme quoi il sait tout ce jeune homme, et ben, il se retrouve effectivement tout seul à Raw, puisqu'il n'a plus Cédric Alexander comme copain, il n'a plus Mustafa Ali et il n'a plus Apollo Crews. Qu'est-ce que tu en dis et puis, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour Apollo, notamment?
Ouais, parce que la mid-card est pas ouf à SmackDown, du coup. et que il y a quand même un titre intercontinental avec un champion qui aura des bonnes raisons d'aller se plaindre.
Ouais.
Vu qu'il était quand même sélectionné assez bas.
Ouais.
Du coup, ça peut permettre à des babyface sans saveur de vouloir aller le chercher, le titiller. Donc, Apollo, je vois bien Apollo Crews effectivement.
Samizane ouais. Apollo Crews, ouais, belle affiche. Hein.
Ça peut. Ouais, ça peut. Bah, c'est toujours un voilà, c'est une ceinture où on aime voir des affrontements techniques et toi où il y a de la bonne lutte entre les cordes. Donc pourquoi pas. Ou alors il va disparaître dans les limbes du show bleu. Hein. Ce serait pas impossible non plus. Ce serait une leçon de vie à retenir pour Apollo Crews.
Mm. Oh, il y était il n'y a pas si longtemps, hein, à SmackDown.
Oui. C'est dans Inception, c'est le mec qui, est vraiment, qui reste 40 ans dans les limbes.
Ah oui, le pauvre.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, le grand malheur de ce tour de draft, c'est que ça nous tue un petit peu le suspense s'il y en avait du match suivant, c'est-à-dire un Raw Tag Team Championship entre le New Day et Bobby Roode et Dolph Ziggler qui viennent juste d'apprendre qu'ils seront à SmackDown à partir de la semaine prochaine. Super pour le suspense. J'ai pas noté grand-chose sur le contenu du match, j'avoue, j'ai un peu décroché. Est-ce qu'il était moins intéressant? Peut-être. À un moment donné, Bobby Roode fait un travail d'équipe, il soulève Dolph Ziggler pour qu'il place son Famous Four sur Kofi Kingston, mais ça fera simplement deux. Xavier Woods a un gros segment où il est un petit peu on fire. Là, il prend appui sur les cordes pour faire un DDT à Dolph Ziggler. Il soulève Dolph Ziggler à bras portants, ça c'est balèze. Mais sauf qu'il prend un DDT du Dolphin dans la foulée. Bobby Roode va placer un spinebuster à Xavier Woods. Et puis à l'extérieur du ring, bah, Kofi Kingston va sauter sur Dolph Ziggler, ce qui neutralise un peu le blondinet. Puis il va se taguer à l'intérieur avec Xavier Woods, ce qui permet aux deux champions de placer leur finisher sur Robert Roode, le Midnight Hour. Du coup, les champions restent champions. Bah, les nouveaux Raw Tag Team restent à Raw, forcément. Si les autres avaient gagné, il aurait refallu faire un échange. Ça aurait été un peu le bordel. Du coup, est-ce que c'était vraiment indispensable ce match, Irem?
Bon, indispensable, ouais, je pense.
Toi, t'aimes bien, ouais.
Ouais, parce que New Day de retour, c'est quand même un événement. Ils ont besoin de remonter en salle, quoi. Et ce match-là, mine de rien, c'était un bon match, en fait. Plutôt technique au début, et puis à la fin, ça s'emballe. Donc, je trouvais que c'était un beau match-up là, pour le New Day, effectivement, avec, bon, certes, un finish sans surprise. Mais je me suis pas dit, tiens, c'était le match de trop, par exemple. Je trouvais que c'était un bon match pour asseoir le retour des New Day.
C'est vrai.
Et puis c'est passer à autre chose en éliminant des espèces de gars là, qui disaient, ouais, mais nous, on avait un title shot, je sais pas quoi, allez hop, voilà.
Je pense qu'ils vont partir sur un title shot pour le titre de SmackDown. Ils sont légitimes là aussi et ils vont croiser un petit peu les Street Profits. Ça paraît assez.
Est-ce que. J'ai une question, mais est-ce que Dolph Ziggler, c'est pas juste le mec le plus légitime au monde?
Oui, c'est vrai.
Chaque fois, ça. Il a un title shot, on fait. Ah ouais, mais c'est normal, regarde, il a déjà gagné le titre là, c'est vrai et tout. Ah oui. Et... il a un passe-partout, le mec. Quoi.
C'est vrai, mais par contre, ça serait intéressant de savoir aussi. À une époque, il y avait une statistique comme ça, mais il y a très longtemps, je me souviens, qui disait quel catcheur en activité à la WWE avait eu le plus de title shots perdus. Et je pense que Dolph Ziggler, il doit en avoir un sacré paquet hein, de ratio perdu-gagné de title shots. Dolphin, c'est le challenger éternel. Ben écoute, ça va peut-être continuer à Friday Night SmackDown et puis après toujours de la mid-card hein, pour ces deux hommes. Ils peuvent aussi soit splitter, soit se tourner vers autre chose, le titre intercontinental comme toujours par exemple. Allez, je crois qu'on a le dernier tour de draft. Tour de draft juste avant le main event. le tour de draft du pauvre hein, là. Attendez-vous à du très gros nom. Donc Stephanie McMahon nous annonce que Monday Night Raw veut avoir Titus O'Neil, Peyton Royce et Akira Tozawa. Incroyable. Et SmackDown préfère avoir Carmella et Aleister Black. Et ouais, le pauvre ancien champion NXT, la sensation des Pays-Bas qui se retrouve à ce niveau-là. Triste ou ficelle scénaristique à ton avis?
Pour Aleister Black?
Oui.
Oh, ouais, bah oui, si, il faut qu'il utilise ça comme motivation.
Comme haine.
Bah ouais, voilà, il est la rancœur, il a perdu son match contre Kevin Owens, il est sélectionné super bas. Il est le... Comment ils appellent ça? Ils ont un nom pour les mecs sélectionnés en dernier dans les sports américains.
Ah, je sais pas.
C'est le mec qui n'a pas d'importance. Je sais plus c'est quoi le nom en anglais, mais c'est le mec, c'est le dernier et c'est le mec dont tout le monde se fout, toi.
Mais
Et il a même droit à un... C'est la lanterne rouge, en fait. Toi, il a droit à un t-shirt. Bon, là, c'est pour le show bleu, donc c'est la lanterne bleue du show bleu.
Oui.
Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'il est quand même au milieu d'un paquet de low-carders assez triste à voir. Dont le plus haut fait, c'est quand même Akira Tozawa est leader d'un clan ninja. Tu sais, parce qu'à chaque fois, il y a les highlights. Ouais. Et Tatsu Sonin nous rappelle quand même qu'il était le premier champion 24-7.
C'est vrai, ouais. Et d'ailleurs... On a pu apprendre le nom du finisher de Titus O'Neil, je me souviens même plus, mais c'est Shock of Titus ou je sais pas quoi. Le truc.
C'est... Ah, je croyais que c'était le sliding, toi, c'était la glissade
sur 10 mètres. Signature move, mais pas finisher.
Ah, d'accord.
Alors, grande surprise pour ce Monday Night Raw, le main event, c'est un main event féminin, on nous l'a évoqué durant le show, donc nous aurons une bataille royale féminine pour affronter la championne Asuka la semaine prochaine. N'oublions pas que la semaine prochaine, la WWE nous vend ça comme la season premiere, donc le premier épisode de la saison. Alors ça, c'est quand ça les arrange, la WWE. Hein. Il y a des années où la season premiere, c'est début septembre. Il y a des années où on nous en parle jamais. L'année dernière, on nous en a pas parlé. Et cette année, bon, bah, il y a une certaine logique, c'est post-draft. C'est-à-dire que voilà, on va nous présenter les rosters. Ok. Asuka, elle est championne depuis un petit moment. Elle a un peu raclé les fonds du roster pour trouver une challengeuse. Et on va voir qu'on n'a pas fini de racler mon bon IRM.
Ah, ça pour racler, ça racle. Hein.
Donc, toutes les filles arrivent sur le ring. Nia Jax, à qui on va décerner la palme de l'intelligence, a la bonne idée, alors qu'il y a 20 gonzesses autour d'elle, de prendre le micro pour dire « Eh les filles, cette bataille royale, c'est soit Shayna Baszler, soit moi qui allons la gagner. Alors, soyez gentilles, sautez par-dessus la troisième corde, ça vous épargnera des douleurs. »
Rendez-vous coup, service.
Voilà, du coup, dès que la cloche sonne, qu'est-ce qui se passe? Elle se fout à 20 sur Nia Jax, évidemment, mais bien fait pour elle, elle n'avait qu'à fermer sa gueule. Sauf que elle s'en sort plutôt pas mal. Là, Nia Jax, elle va nous éliminer Tamina après l'avoir regardé droit dans les yeux en face-to-face, puis Billie Kay, puis elle élimine Dana et Mandy Rose qui étaient en train de s'attaquer à Shayna Baszler, donc elle sauve sa copine. Sauf qu'à ce moment-là, toutes les filles se rejettent sur Nia Jax et Shayna Baszler vient les aider et... permet d'éliminer Nia Jax. Donc Nia Jax, elle est super vénère. C'est pas bien, quoi. Elle est vénère. Bon, elle a réussi à éliminer 4 filles en 30 secondes, mais elle est quand même... elle a perdu son title shot, elle a perdu sa chance. Du coup, elle attrape Lana qui roulait par là, qui gisait, et quatrième fois, oh my god, ils ont encore tué Kenny. Lana prend un Samoa Drop à travers la table des commentateurs. C'est le grand running gag. Donc Asuka qui montrait beaucoup de tristesse à l'égard de l'élimination de Mandy Rose, qui est sa copine, sa sexy copine a priori. Et ben, elle était au commentaire, elle est obligée de partir après regarder la
suite du match. Ouais, c'était pas clair ça.
À la télé, oui. Bon, en fait, je l'ai capté plus tard, je dis ah oui, c'est parce qu'ils ont pété le ring peut-être, mais je sais pas trop.
Oui, c'est ça.
J'ai déduit que c'était ça.
Bah, je te dis, donc... il faut tirer les traits entre les points.
Ouais, non, c'est ça. C'est... bon, au passage, on nous filme quand même que Randy Orton et Drew McIntyre, ils sont en train de se tabasser bien fort la gueule dans les coulisses, mais ça, bah, désolé les mecs, il y a un main event féminin, essayez pas de tirer la couverture à vous, on finit là-dessus. Hein. Donc on continue, Lacey Evans va éliminer Nikki Cross en lui envoyant son Woman Right, Bianca Belair élimine Shayna Baszler, alors là, gros spot pour Bianca Belair, du coup, le final four, là, sur le ring, c'est ça, c'est Lacey Evans, Natalia, Liv Morgan et Ruby Riott. Là, on a un gros carré. Sauf qu'on a une espèce d'échange que j'ai trouvé assez sympa où elles se croisent d'un coin du ring à l'autre. En fait, Lacey Evans et Natalia attrapent Morgan et Ruby Riott, les lancent l'une contre l'autre pour qu'elles se percutent. Sauf qu'elles s'évitent, elles font un petit saut de mouton et elles partent taper les deux autres. Mais Liv Morgan et Ruby Riott sont éliminées au même moment. Donc, Natalia et Evans se font face. Elles se mettent sur le coin du ring, elles sont passées par-dessus la troisième corde, mais elles s'accrochent aux cordes, elles essayent de se faire tomber, de se pousser, machin. Finalement, Natalia envoie Lacey Evans dans le poteau, elle tombe. Natalia, encore on se dit, same old shit, encore Natalia, sauf que la cloche ne sonne pas, la musique ne retentit pas, et pour cause, on l'avait oublié, mais elle n'avait pas été éliminée. Lana arrive, et d'un coup de pied magistral, le plus beau move de sa carrière, elle fait glisser Natalia dehors. Lana est la challengeuse au titre d'Asuka. Alors, à tous ceux qui disent que on se venge parce que Rousseff est parti à la AEW et qu'il est devenu Miro, qu'on fait subir à Lana toutes les humiliations possibles, eh ben, title shot. Alors, bon, on va sûrement se faire rouler sur la gueule, on peut le dire, mais quand même,
Lana is the best. Lana number one, IRM.
Eh
si,
oui.
Si on avait su ça.
Ah ben si on avait su, on serait pas venu, c'est ça.
C'est une possibilité.
Ouais, bah elle va toucher sa petite prime pay-per-view au moins, toi. Tu participes à un pay-per-view, t'as une petite prime.
Ah bah oui, sauf que c'est next week. C'est à Raw, hein.
Ah d'accord, c'est pas pendant Hell in a Cell.
Ah non, non, enfin, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est annoncé semaine prochaine pour la season première. Alors peut-être qu'il y a une prime season première, mais...
Oh bah oui, allez, il y a des primes, là. L'argent coule à flot à WWE pendant cet temps de crise. Stamford surfe sur la vague Covid avec une agilité déconcertante. J'ai trouvé qu'en tout cas, ce match était plutôt bien, était bien raconté.
Ouais.
Pour une bataille royale féminine, donc je veux dire, historiquement,
c'est pas
on
toujours
part de loin.
Ouf.
Dans un weekly, ça partait mal. Déjà, tu en dis, en plus, en main event, tu dis, oh là là, c'est quoi cette entourloupe? Mais j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 angles vraiment sympas, que ce soit effectivement Shayna Baszler qui élimine Nia Jax, c'était très bien vu. Les 2-3 voilà, mid-cardeuses qui ont pu briller, que ce soit Lacey Evans ou une Bianca Belair qui était presque ma petite underdog chouchou là, sur laquelle j'aurais bien parié, ont plutôt bien délivré. Et puis cet angle à la fin où effectivement, qui fait sens, enfin qui fait écho pardon à ce qui s'est passé un peu plus tôt, Natalia qui se fait avoir après avoir abandonné Lana. La gagnante, c'est pas très excitante, enfin clairement, ça fait pas secouer, pour venir à ce qu'on disait au début du show. Mais c'était bien raconté, donc limite, je préfère. Entre Natalia et Lana, toi, je préfère voir Lana se faire rouler dessus par Asuka pour un match sans grande surprise. Quitte à ce qu'ils nous surprennent en faisant que ce soit un squash costaud, toi, qu'elle se fasse défoncer ou quoi, plutôt que un match sans saveur entre Natalia et Asuka. Et puis qu'on garde des plus grosses contenders pour la suite.
Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. C'est-à-dire que Natalia est sûrement bien meilleure sur le ring que Lana, mais on l'a tellement eu, c'est tellement la facilité et c'est tellement la promesse d'un match qui serait pas trop mal, avec des bons moves, mais un résultat couru d'avance, que ça m'emballait pas du tout. Lana, il n'y a pas du tout d'excitation ou d'intérêt, mais on va dire qu'il y a un peu de fraîcheur dans l'histoire racontée, et puis... Oui, c'est un peu rigolo parce que je trouve que c'est un pied de nez à tout ce qui pouvait se dire justement backstage sur Lana punie pour son mari et puis le running gag de enfin voilà, il y a un truc un peu rigolo qui va pas aller bien loin, mais comme tu l'as dit, c'est un title shot très court quoi.
Tu sais comment c'est, hein, à chaque fois on nous l'a fait, hein, genre ils sont punis et en fait les mecs sont pushés de ouf juste après.
Ouais.
Et ils sont pas rancuniers tant que ça à WWE, ils sentent là où il y a l'argent, ils y vont.
Ils savent que là, ils vont susciter, en tout cas, là, peut-être pas l'intérêt, mais voilà, l'étonnement de tout l'univers de la WWE qui est plus large que ça, qui va dire « Ah putain, ah ouais, non, finalement, c'est Lana, comment ça se fait ?» tout ça. Donc, mais on finit pas là-dessus, puisque Drew et Orton continuent à se tabasser tellement qu'ils arrivent sur le ring et autour. Alors on voit un peu les dernières filles, notamment Lacey Evans, qui se cachent un peu, qui veulent pas en prendre une au passage. Et ça bastonne tellement que les officiels sont obligés de les séparer. Là, il y a 10, 15, 20 arbitres qui arrivent. Drew et Orton, qui ont passé un peu la soirée à se mettre sur la gueule. Bah, je vais te reposer la même question. Est-ce que c'était indispensable, ça, de nous les ressortir? Un petit coup de testostérone après tous ces oestrogènes. Un petit coup de... Alors, ils sont musclés, ils sont beaux, ils se détestent, ils se mettent sur la gueule. Mais est-ce qu'on avait besoin d'une couche en plus? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Non, le seul qui a besoin d'une couche en plus, c'est Papy.
Ah oui, bah, c'est vrai.
Ça déborde. Bah là aussi, c'est un peu débordé, quoi. Ouais, je pense que là, clairement, il n'y avait pas besoin. On serait, à quelques jours, là, genre c'était le Go Home Show, j'aurais compris. Et j'aurais pardonné. Mais là, je comprends pas, du coup, c'est pas que je pardonne pas, mais là, franchement, on aurait pu s'en passer et terminer sur un main event 100% féminin qui, certes, termine d'une façon un peu décevante pour certains, mais qui a le mérite, je trouve, de proposer une bataille royale digne du 21e siècle. Donc, j'aurais préféré qu'on reste sur cette image-là, toi.
Ouais, bah, Lana qui mène event trop, ça aurait été...
Oui, on est allé jusqu'au bout. Là, c'est presque qu'ils n'ont pas assumé, toi.
Oui, je pense qu'ils n'ont pas trop assumé. C'est ça l'idée derrière. Donc, dans la foulée, alors c'est très compliqué à suivre, mais on a quand même eu quelques drafts post-Monday Night Raw depuis. Donc, on sait que, par exemple, Lana, Lindsay Dorado et Grand Metalik, Riddick Moss, Arturo Ruas, ça on l'a dit, sont à Raw. D'après notre ami Papy, Natalia, le Riot Squad, Billie Kay, Tamina et Zelina Vega sont à SmackDown. Tout ça n'avait pas été annoncé. Short TG aussi, Short Gable. Et donc, Andrade, free agent total pour le moment. Est-ce qu'on fait un dernier mot? Je ne sais pas. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour le show, évidemment, et puis un mot de la fin pour le draft, pour la gueule des rosters? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'étonnent, qui t'impressionnent, des feux que tu vois bien? Voilà, une petite prévision du petit IRM Booking.
Bon, on va conclure sur cet épisode du coup.
Ouais.
Effectivement, du coup là tu me prends un petit peu de cours, excuse-moi. En plus j'avais noté plein de tops et de flops au fur et à mesure.
Alors, si tu veux, je vais donner ceux de papy et de tonton avant.
Ouais, faisons ça et on va utiliser les vieux comme protection, comme coussin d'air.
Alors, honneur aux vieux, et les vieux ne sont pas contents. Voilà.
Oui, c'est vrai que heureusement. Oh là là, ils sont pas contents du tout.
Les vieux sont tombés sur la tête, on pourrait dire. Papy est vénère, il nous l'avait dit. Alors, il met son top à la simulation de Ricochet, qu'il a adoré.
Oui.
Par contre, en flop, il voulait mettre tout le show, et donc il nous dit c'est la draft qui n'a pas été mise en valeur, une draft sans saveur. Voilà, il sort de cette draft très frustré parce qu'il a trouvé que l'échange de ceinture était naze. Retribution, comme ça, sélectionné, c'était naze. Bray Wyatt, qui n'a pas été très vendu. Bon, ça, c'est son opinion. Le botch de Jeff Hardy. La fin de la bataille royale féminine avec Lana Number One, il n'a pas aimé, visiblement. Il n'a pas aimé le match tag team féminin. Bon, ça, on peut le comprendre. SmackDown, Strowman, pardon, versus Lee, qui est la semaine prochaine, dont on nous a parlé tout le show. Bref, alors Papy, il dit que c'est naze, il dit même que c'est nul à chier, 0,5. Je sais pas s'il a déjà dit une note aussi mauvaise. Par
Ouais.
contre, Tonton Chris, qui lui donne souvent des mauvaises notes aussi, hein, il met en flop tout ce qui s'est passé pour l'échange de ceinture. Il a trouvé que le match Bobby Roode, Dolph Ziggler contre New Day, c'était un non-sens. Il a eu l'impression d'être pris pour un con dans ce weekly. Ça y va, entre Ricochet, Lana, les New Day, tout ça, que des trucs mauvais. Et donc, il a mis son top difficilement, visiblement, au Fiend et à Alexa Bliss. Irem, je te laisse reprendre tes esprits. Est-ce que là, on est passé de 0,5 à 1,5? Est-ce que tu montes un petit peu?
Ah ouais, moi je vais monter à 2,5, allez, on va
2,5.
augmenter de 1. J'ai trouvé, écoute, d'ailleurs je propose de rebaptiser Tonton Chris à Concon Triste, ça peut être pas mal.
Le pauvre.
Ah non
Ah
mais
bah oui, il a été pris
si,
pour un con,
il
il l'a
était
dit
pris pour un
lui-même.
con, bah ouais, donc Concon Triste. Non écoute, c'est vrai que toute la partie draft, voilà, en fait, hormis les résultats, il n'y avait rien à se mettre sous la dent, ils le mettent pas en scène, ils le mettent pas en scène, voilà, de toute façon c'est comme ça depuis... L'année dernière, au moins, donc c'est vrai que c'est pas très excitant. Il y a des mecs qui restent là où ils sont, des mecs qui s'en vont. Bon, bah, de toute façon, ça fait partie de la mécanique de cet événement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, d'autres un peu moins, sur les nouveaux match-ups possibles. Mais après, sur le champ lui-même, j'ai trouvé qu'on avait vraiment des beaux matchs. Il n'y avait pas grand-chose à jeter sur les matchs qui nous ont été offerts. Et puis on a voilà quelques pistes intéressantes pour la suite. Donc c'est vrai que bah, on va dire le catch, la lutte était à l'honneur. Donc peut-être que c'était du hors piste finalement par rapport au concept de Draft Day. Donc si tu notes par rapport vraiment au concept de la draft, ouais effectivement tu vas mettre un 0,5. Toi tu te dis mais attends on m'a pris pour des cons. Enfin c'est quoi? Enfin, où est le champagne, quoi, toi, les paillettes, les mecs qui ont les t-shirts rouges, bleus, les mecs qui se croisent dans les couloirs. Enfin, on a déjà, tous les ans, on imagine ce que ça pourrait être. Mais
Mais
c'est jamais.
Papy avait beaucoup d'attentes, hein.
Ben oui, voilà, c'est ça. Donc, il pouvait être que déçu. Et la note s'en ressent. À l'inverse, si tu prends presque ça comme un épisode normal où on apprend où il y a des transferts, que bah, j'ai décidé de faire, parce que de toute façon, le système, il est comme ça, et puis c'est tout. Toi, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de mieux par rapport à la draft. Alors, on a eu vraiment des beaux matchs et des belles séquences. Et du coup, bah, ça fait 2,5, quoi. C'est un bon weekly avec de la bonne baston. Et du coup, moi, mon top, je vais le donner à ce petit moment, bah, justement, à Alexa Bliss et de The Fiend,
Ouais.
qui m'a fait décoller de mon siège. Alors, c'est un micro-moment, hein, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis, mon flop, bah, je le mets aux gars là, qui veulent pas s'arrêter de se battre alors que il y a une bataille royale féminine, les gars,
Ah oui.
C'est pas bon, très quoi. 2020, ça.
Ouais. Non, c'est pas très 2020.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, moi, je suis d'accord que je trouve que la WWE nous prend un peu pour des cons. je suis d'accord avec Chris sur le concept de la draft, ou du draft, encore une fois. Moi, je trouvais ça tellement mieux, en fait, quand on avait un show normal, entre guillemets, mais que, mettons, on avait un Monday Night Raw normal, et puis tout d'un coup, bababoum, musique d'entrée, tu voyais débarquer, bah, par exemple, le Fiend, là, poum, tu voyais débarquer, et ah mon Dieu, le Fiend est à Raw. Là, ça aurait été, t'imagines, là, si on avait... Déjà, c'était assez étonnant de voir le Fiend d'arriver taper Andrade, mais si on avait pas annoncé le draft, il y avait quelque chose, et je trouve en fait que ce choix qu'ils ont de lister les noms, de faire des picks et tout... Il l'utilise un peu scénaristiquement en disant « Ouais, c'est le first pick, ouais, c'est... il est en bas de carte », mais très peu en fait, et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et, et 3 mois après, on ne s'en souvient plus et on s'en fout. Donc j'ai du mal avec ça, et je trouve qu'en gros, j'ai l'impression qu'ils en profitent pour étaler ça et de temps d'antenne. Et moi, je le redis, mais je trouve ça complètement con. Autant ça se comprenait lorsqu'il y a eu la séparation des brands ou le passage sur la Fox, de reprendre tout un roster à zéro. Autant là, je comprends pas. Pour moi, c'est nul de dire « Oh, Bailey reste là. Oh, Drew reste ici. Oh, Roman Reigns reste là. » Ça n'a... On gagnerait tellement de temps et ça donnerait plus de temps pour le vrai catch de nous dire « Bon, alors voilà, Raw, ils ont le droit à tant de transferts, SmackDown, tant de transferts, mais que chacun soit un vrai transfert. » Ça aurait, à mes yeux, plus de poids. Après, je suis d'accord avec toi. On a eu plutôt des beaux matchs et on a vu du beau monde, hein, que ce soit... un peu tout le monde, hein, que ce soit Orton, Drew, Owens, Aleister Black, Seth Rollins, voilà, toutes les grandes stars étaient là et ont bien donné quelques jolis segments. Donc moi, je mets aussi 2,5, je mets la moyenne. Je suis assez intrigué de voir comment tout ce roster va se mettre en place. Hell in a Cell n'est pas très loin, hein, c'est dans 2 semaines, donc il va falloir booker aussi tout ça en fonction. La mid-card de Raw se trouve très changée, celle de SmackDown aussi. Finalement, les champions sont toujours les champions et ils gardent leur challenger immédiat. Voilà, les Uso et Reigns sont d'un côté... Drew et Orton de l'autre, mais c'est vrai que Drew et Orton se retrouvent dans la même division que Braun Strowman et Sheamus, par exemple, alors que Roman Reigns se retrouve avec Seth Rollins en étant heel tous les deux. Là, il y a forcément des choses qu'on peut imaginer. Il y a Kevin Owens aussi de ce côté-là. Ça peut espérer pas mal de choses. Difficile de se projeter là-dedans, mais moi, je vais donner mon top quand même sur ce show à... je vais donner mon top au match Kevin Owens à Aleister Black. J'ai bien aimé, c'était sympa. Et je vais donner mon flop au segment féminin de Miss TV, parce que j'ai trouvé ça nul quand même. Là, ça faisait vraiment époque diva, là, quoi. Avec Lana, Natalia, Mandy Rose et Dana Brooke tout en cuir brillant. C'était pas les belles heures de la WWE qui me sont rappelées à moi, donc flop sur ce segment ici. Mais encore une fois, voilà, ce n'est qu'une fin de saison et une nouvelle saison commence, donc plein de choses sont encore à écrire. N'hésitez pas à nous suivre là sur les Discord et à participer pour clarifier un peu ces histoires de qui est drafté, qui est pas drafté, qui est un free agent, qu'est-ce que ça va donner. Irem, ce fut un plaisir d'avoir commenté cet épisode avec toi, et tu sais quoi, comme tu es le chef, comme tu es le patron, je vais te laisser expliquer à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver. Et où est-ce qu'ils peuvent nous suivre? Je t'écoute, Mister Réseaux Sociaux, le COO, le meilleur de l'histoire du podcast français.
Alors, je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs au Blue Boys.
Ah, c'était donc ça.
Accueilli dans la Dark Room par nos vétérans, hein, Tonton Chris et Papy. Mm-hmm. Voilà, donc qui vous feront découvrir, redécouvrir les plaisirs les plus simples de la vie, à savoir hein, regarder un bon match de catch et en parler tous ensemble. Mm-hmm. Sinon c'est très simple hein. En audio il suffit de nous suivre sur PodCloud, sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, n'hésitez pas d'ailleurs à y laisser un petit commentaire et mettre des pouces, des étoiles et des cœurs. Vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson, les réseaux sociaux, t'en as parlé hein. Instagram, Facebook, Twitter, Catch Up CDC, évidemment le Discord dont le lien est dans la description. Voilà mon bon Raphaël, comment nous suivre?
Eh bien, très bien. Mais j'espère que vous allez suivre tout ça. Nous, on est là toutes les semaines. On va enchaîner la draft, c'est fini. Saison première de SmackDown qui arrive. Des gros matchs, des gros affrontements, des grosses rivalités.
Hell in a Cell en ligne de mire, donc on sera toujours là, on sera là, il y a Irem, il y a Papy, il y a Tonton Chris, il y a tout le monde, il y a Giscard, il y a Ringside, de, tous, en, tous ensemble, nous sommes la belle équipe de catch-up, nous on n'est pas drafté, on reste dans le meilleur podcast francophone du catch de l'histoire. Ben, continuez à nous suivre, merci d'être là, je vous dis à très bientôt Irem, et bonne semaine pleine de catch, ciao.
Ciao.
Quelle énergie, Irem.